Nous sommes sous le regard du Seigneur et je voudrais partager avec vous un sujet qui me trotte dans le cœur depuis quelques semaines. Lorsque les croyants se convertissent, lorsque les pécheurs se convertissent, ils passent des ténèbres à la lumière. Lorsque les hommes passent de la mort à la vie, lorsqu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés, ils sont heureux. Oui ? C'est quelque chose d'évident. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est passé de la mort à la vie ? Eh bien, c'est qu'il est heureux. Il est heureux parce qu'il peut avoir des problèmes, des épreuves, ça n'a rien à voir. Il est intérieurement heureux parce qu'il a rencontré ce Dieu qu'il se prépare à rencontrer. Les évangélistes affirment tous, M. Bourdonnais avait compris, que lorsque les gens se tournent vers Dieu, ils sont heureux. Et c'est vrai. Mais ce bonheur, pour beaucoup de chrétiens, ne dure pas. Est-ce que vous le savez ? Et il nous arrive à nous les pasteurs, et vous les chrétiens, de rencontrer des chrétiens qui ne connaissent pas le bonheur. Qui ne connaissent plus le bonheur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé ? Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. Et je vous encourage à prendre quelques notes. Au moins, les textes clés, des versets que je vais vous laisser, pour que vous puissiez les méditer, si ça vous intéresse, le bonheur. Alors, David, dans le psaume 4, devait avoir assisté à une réunion avec des hommes, je ne sais rien, avec des hommes ou des femmes, que sais-je. Et dans ce psaume 4, il pose une question, il se fait le porte-parole de plusieurs. Psaume 4, vous connaissez certainement ce psaume, verset 7. Plusieurs, mais aujourd'hui c'est exactement pareil. Les gens aujourd'hui veulent avoir le bonheur, oui ou non ? C'est pas vrai ? La question, elle est là. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Voilà, cette question, elle est là. Vous savez que chaque mot qui est dans la Bible est pesé. Tout ce qui est dans la Bible est intelligent, même si, comme la prophétie nous le rappelait, les gens ne comprennent pas parce que nous sommes très, très, très terre à terre. Mais tout ce que Dieu a dit est important. Tout. Chaque question posée dans la Bible est importante. Cette question est le résultat certainement de la réflexion de plusieurs amis de David. Peut-être ils discutaient, peut-être ils étaient en train de partager quelque chose. Et lui, il se fait le porte-parole. Mais plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Alors je lis la suite. « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leur froment et leur mou, je me couche et je m'endors en paix. » Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un est heureux, il se couche en paix. C'est une grande bénédiction aujourd'hui de s'endormir en paix. Oui ou non ? Alors le bonheur, certains chrétiens ne l'ont pas. Je vais vous l'expliquer. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a chanté ce matin, « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Certains chrétiens vivent véritablement dans le bonheur, c'est une évidence. Certains chrétiens vivent le bonheur, mais sous forme d'espérance. Ils sont plus à l'aise quand ils chantent « Quel bonheur, Jésus vient, sa gloire apparaît, il revient, commencez après déjà la clarté de sa gloire paraît, il revient ». Il y a des gens qui sont heureux en espérance, parce que, et c'est pas du tout incohérent, ils sont heureux parce qu'ils savent que, bon, même si la terre n'est pas facile, ils savent que ben, dans l'éternité, ils se réjouiront, ils sont heureux, mais qu'en espérance, c'est déjà une grande bénédiction. C'est bien d'être heureux en espérance, de savoir ce qui nous attend, de savoir qu'on sera avec lui. C'est bien, non ? C'est quand même extraordinaire. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut vraiment. Il veut beaucoup plus. Il veut beaucoup mieux. Alors, on va voir quatre comportements, quatre attitudes de cœur, quatre choses qui font véritablement que quelqu'un est heureux. S'il n'y en a que deux, s'il n'y en a que trois, ça ne suffira pas. S'il n'y en a qu'une, bien sûr, ça sera incomplet. Et je crois que dans un monde de misère dans lequel nous sommes, je crois que Dieu veut que ses enfants rendent un bon témoignage de grâce et de paix. Oui ou non ? Est-ce que vous croyez que Dieu est satisfait lorsqu'il voit des chrétiens qui vivent dans la grâce de Dieu ? Hein ? Quel témoignage ! Quel témoignage ! Alors nous allons donc partir. D'ailleurs, ce verset, on peut lire dans Romains au chapitre 4, regardez. C'est quand même, ça complète ce que nous venons de lire. Il est dit, Romains chapitre 4, verset 6, voyez, il a posé la question, qui nous fera voir le bonheur ? C'était lui qui se l'a posé, c'était d'autres qui l'a posé, j'en sais rien. Mais, Dans le Romains au chapitre 4, au verset 6, qu'est-ce qu'il est dit ? De même, David, qu'est-ce qu'il fait ? Il exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, David exprime le bonheur. C'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. Que les gens dans le monde soient préoccupés par le bonheur, c'est normal. Bien sûr qu'ils courent, c'est le miroir aux alouettes, ils ne le découvriront jamais. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur ? Qu'est-ce que c'est le bonheur ? C'est une question que l'on peut poser, même dans une église. Mais qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ? Est-ce que d'être comblé au niveau matériel, ça procure le bonheur ? Attention, attention. Soyons très honnêtes. Soyons très, très honnêtes. Ce n'est pas des questions pièges, c'est des questions sérieuses. Est-ce que c'est quand même bien d'être comblé matériellement ? Est-ce que c'est bien d'être heureux dans le plan sur le plan sentimental ? Non ? Réfléchissez, s'il vous plaît, aux questions. Est-ce que c'est beau lorsqu'on voit un homme et une femme qui sont heureux, qui s'entendent, qui sont comblés ? Est-ce que c'est bien le bonheur sentimental ? Bon. Est-ce que c'est bien de réussir sur le plan professionnel ? Ben oui. Est-ce que c'est bien d'avoir réussi professionnellement ? On ne prie pas pour nos enfants pour qu'ils réussissent professionnellement ? Bon. Toutes ces choses-là ne sont pas négligeables. Il faut savoir les apprécier. Parce que ça serait malhonnête que de dire que d'avoir un bon travail, une bonne famille, de l'argent, une bonne santé, ça ne contribue pas au bonheur. Quand même, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Quelle grâce d'avoir ces choses. Si vous les avez, j'espère que vous ne cessez de bénir Dieu pour chacun de ses bienfaits. Ce sont des choses qui sont écrites dans la parole, que Dieu nous donne toutes sortes de bienfaits. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et que notre âme doit bénir Dieu pour chacun de ses bienfaits. Ça contribue au bonheur. C'est vrai qu'il y a un petit slogan en France qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». C'est vrai. Quand on a de l'argent, on peut le dire. Et c'est vrai que, quand même, quand Dieu nous comble de ses faveurs, ça nous réjouit. C'est biblique. On ne va pas prendre les textes. Mais le bonheur, ce n'est pas que ça. C'est pour ça que ceux qui ont répondu vite, fait, vous aviez aussi raison. Ce n'est pas que ça. Il y a d'autres valeurs que l'argent, le travail, l'affection, le matérialisme. Et au psaume 4, il y a la réponse. Quand David dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. » Il est en train d'expliquer que le vrai bonheur, c'est beaucoup plus important qu'un compte en banque bien rempli. Vous ne parlez pas de grenier aujourd'hui. Est-ce que vous parlez de grenier ? Non. Mais on pourrait parler de compte en banque. C'est ce qu'il est en train de dire. Voyez, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand t'abondent leur froment et leur mou. Le vrai bonheur dépasse le plaisir d'avoir des greniers remplis. Merci pour tout ce que Dieu vous a donné. Merci pour tout ce que Dieu vous donnera. Vous savez qu'il pourvoira jusqu'à la fin. La Bible dit que le juste, il ne mendiera jamais son pain. Le juste, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. David a eu beaucoup de choses. On va voir quatre paroles de David. David a eu beaucoup de choses que nous n'aurons jamais. Hein? David, elle a été roi. Est-ce que ça peut vous arriver d'être roi ou reine ? Comment ? Dans le ciel ? À l'épiphanie ? Oui. Le 6 janvier ? À l'épiphanie. Hein ? Avec la couronne. Donc, il a été riche. Est-ce que David a été riche ? Vous avez vu ? Vous avez vu tout ce qu'il a donné pour la construction de temple ? C'est quelque chose d'impressionnant ce que David a donné comme or et comme argent pour que son fils Salomon puisse construire le temple. Est-ce qu'il a eu la gloire, David ? Est-ce que quand il a tué Goliath, lorsque dans les rues de Jérusalem, partout, les femmes chantaient, je pense qu'elles auraient dû faire attention à chanter, et David, Saül a tué 1000, et David en a tué 10 000. Ça n'a pas plu à quelqu'un. Mais est-ce que ce n'est pas une forme de gloire, ça ? Au-delà du roi en place, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a eu tout ça il a eu. Mais pourtant, ce n'est pas ça qui l'a rendu heureux. Il a eu, premièrement, le bonheur que la foi procure. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, vous qui voulez véritablement connaître le bonheur que Dieu veut vous procurer, de méditer tous les textes où il nous est parlé de l'homme qui met sa confiance en Dieu. Regardez, psaume 34, verset 9. Je répète, beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux parce qu'ils ne vivent plus par la foi. Dieu pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Un jour, Jésus a posé la question aux apôtres dans une barque, mais où est votre foi? Psaume 34, verset 9. Jamais dans la Bible, il est dit « heureux l'homme qui prie ». Jamais. Pourtant, je ne sais combien de fois, je ne les ai pas comptées, il est parlé de l'homme qui est heureux, qui se confie en Dieu. Heureux, psaume 34, verset 9. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 40, verset 5. Alors, on pourrait passer la demi-heure qui nous reste à lire que des textes, comme celui que nous lisons maintenant. Psaume 40, verset 5. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Alors, nous, on chante parfois des choses, mais on ne les vit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que David a écrit, il l'a vécu. C'est ce qui fait le décalage parfois entre le paradoxe chez certains chrétiens. Ils chantent des choses, mais ils ne les vivent pas. Et ça crée de la confusion dans leur cœur, et parfois ça crée des pierres d'achoppement. Mais David, il a vécu ces choses. Quand il dit « heureux l'homme qui cherche en lui son refuge », il l'a vécu. Pourquoi ? Il a cherché le refuge, par exemple, chez les Philistins. Vous savez que quand ça s'est mal passé avec le roi Saül, il a fui. Il a fui chez les Philistins. Et quand il est arrivé chez les Philistins, c'est là qu'il a écrit ces choses. Il s'est rendu compte que le refuge, c'était pas chez les Philistins. Il s'est rendu compte que son vrai refuge, c'était Dieu. Il a compris que ce qu'il cherchait ailleurs, c'était pas bon. Mais en Dieu, il pouvait vraiment se confier. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est une véritable attitude. Je te fais confiance pour tout. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Nous sommes là ce matin, nous sommes là. Nous allons à l'église tous les dimanches, comme on dit. Nous sommes là dans un lieu de culte, nous avons pris la Sainte Seine, nous allons dans demi-heure nous réjouir de la communion fraternelle, c'est une évidence. Quelle grâce de retrouver des frères, quelle joie de voir monsieur et madame Bourdonneuve, c'est pas vrai hein? On prie pour eux tous les jours quand on les voit, ça nous fait plaisir. Quelle joie de nous retrouver. Mais mes frères, est-ce que pour autant nous avons mis notre confiance en Dieu pour tous les problèmes que nous rencontrons? Est-ce que nous mettons notre foi en Dieu? Tous! Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Dernièrement, je parlais avec une chrétienne. Je parlais avec une chrétienne. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais comment je vais faire? J'ai dit, mais confiez-vous en Dieu. Ah, elle me dit, ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que tu rêves? Elle m'a exactement parlé comme les païens. Quand je leur parle, ou que je leur donne des conseils. C'est le béaba de l'Évangile, de se confier en Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et David, alors, prenez une concordance, ou lisez les psaumes, et arrêtez-vous sur chaque fois, et regardez le contexte, où David dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Vous remarquerez qu'il y a une association, chaque fois, entre la foi et le bonheur. Et où elle est notre foi? Est-ce que vous faites confiance à Dieu pour le salut de vos enfants? Même si vous dites, ah mais plus je prie, plus il empire. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça vous est jamais arrivé de dire, mais attends, plus je prie, plus ça dégénère. Vous croyez que ça veut dire que ça ne va pas se manifester? Mes frères et sœurs, même si les situations ne s'arrangent pas, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Que ça tourne d'une façon ou d'une autre, Seigneur, je choisis de faire confiance. Et il y a une partie, on va voir, une partie du bonheur, parce que s'il n'y avait que la foi, ça serait vraiment incomplet, vous allez comprendre. Mais une partie de la foi accorde vraiment le bonheur. Alors, que de psaumes. Celui, qu'est-ce que c'est la foi, la confiance, pour aider certains à retrouver cette foi. Quand David dit, justement dans le psaume, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est ça la foi. La foi, elle se repose sur Dieu. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. La foi, c'est, je reçois l'instruction. Ce matin, tu vas me parler au travers d'un verset qu'on va lire. Peut-être qu'il n'y aura qu'un verset, mais je viens m'y accrocher. Et ce verset me suffira pour être restauré. Je reçois une instruction du Seigneur. Mais les gens, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Notre frère, M. Olé, partageait justement que la connaissance de Dieu fait défaut dans le royaume parce que les gens, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Parce que leur cœur est fermé. Ils veulent bien une bénédiction, ils veulent bien croire en Dieu pour obtenir quelques faveurs, pour que Dieu soit de leur côté, pour que Dieu, eh bien, soit là. Parce que, au cas où, et si c'était vrai tout ça, mettons Dieu de notre côté. C'est pas du tout ça la foi. La foi, c'est se décharger sur Dieu. Est-ce que c'est pas un commandement? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est une instruction. Combien de fois je m'aperçois que moi aussi, un petit souci ou un gros, je me mets à l'entretenir. Et je dis non, je me décharge de tous mes soucis. Parce que c'est un commandement. Ah, si vous étiez attentif à mes commandements, dit le Seigneur, votre bonheur serait comme les flots de la mer. Mais quand vous dites aux chrétiens, écoutez, déchargez-vous. Ah, c'est facile à dire, hein. Vous, c'est facile. Qu'est-ce que vous en savez si c'est facile? Vous croyez que c'est sérieux de répondre comme ça à quelqu'un? Pour vous, ça veut dire que c'est pas grave que les gens pensent, que certaines personnes pensent certaines choses de nous. C'est pas important ça. Que ce soit facile ou que ce soit difficile, c'est pas grave. Mais la personne en vérité, elle est en train de s'opposer à Dieu. Et c'est pas en disant à quelqu'un, oui, toi c'est facile pour toi, t'as pas de problème. Vous savez, des fois, les gens qui ont le plus de problèmes, c'est ceux qui n'en parlent jamais. Et la vraie foi, elle saisit les commandements. Seigneur, tu me rappelles ce matin que je dois me décharger de tous mes soucis? Eh bien, je le fais. La foi, c'est se décharger. La foi, c'est se reposer. La foi, c'est se confier. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol, comme les aigles. La foi, c'est se fier en Dieu. C'est une chose de se confier. Vous regarderez dans le lico. C'est une chose de se fier en Dieu. La foi, c'est s'attendre à Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La foi, c'est avoir recours à Dieu. Le psaume 105:4. Ayez recours en l'Éternel et en son appui. Cherchez continuellement sa face. La foi, c'est s'abandonner à Dieu. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. S'abandonner à Dieu. Le vrai sens en hébreu de la foi, c'est de s'abandonner à Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me jette dans tes bras. Je te fais confiance. Alors David, qui posait la question, mais qui nous fera voir le bonheur, a trouvé la réponse. Parce que c'était un homme qui cherche Dieu. Donc il a trouvé le bonheur dans une véritable foi. Je ne parle pas de croyance. Je parle dans la foi. Alors je vous pose la question, parce qu'il faut qu'on y réponde. Dieu est-il votre refuge? Est-ce que vous pouvez dire oui, j'ai foi en Dieu d'une manière catégorique. Je lui fais entièrement confiance. Quand tout va bien, quand tout va mal, ça ne change rien. J'ai foi en mon Sauveur. Mais que serait la foi sans la grâce? C'est bien, on pourrait parler toute la réunion de la foi. Mais que serait la foi sans la grâce de Dieu? D'ailleurs, ce même homme, roi, berger, en tous les cas selon le cœur de Dieu, a écrit un psaume qu'on connaît par cœur, par tête, qu'on connaît là-dedans. Et dans ce psaume, David exprime une vérité avec un mot qui nous prouve que Dieu est d'accord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu a connu le bonheur parce qu'il a mis sa foi en Dieu, mais parce que la grâce l'a accompagné tous les jours de sa vie. Et béni soit Dieu pour la foi. Mais comme je vous le dis, la foi sans la grâce, ça irait pas bien loin. La grâce est extraordinaire. Et puis il en parle au futur. Le bonheur m'accompagneront. Et la grâce m'accompagneront. C'est pas, j'étais heureux au début de ma conversion, c'était chouette. Les premières années, maintenant, c'est pas évident. Non. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ce verset commence par une affirmation. Oui, si la grâce n'existait pas, on pourrait avoir la foi à déplacer des montagnes, ça ne servirait à rien. Et au début de notre conversion, nous nous sommes beaucoup appuyés sur la grâce de Dieu. Et petit à petit, nous pensons, je généralise, mais beaucoup de chrétiens croient dans la grâce de Dieu pour les autres. Quand les filles de la rue viennent dans l'église et que je vois certains chrétiens, comment ils leur parlent? Mais ayez confiance dans la grâce de Dieu. Dieu peut me pardonner. Mais oui, Dieu peut vous pardonner, il pardonne tout. Quand je vois comment certains chrétiens parlent de la grâce de Dieu aux autres, je me dis, mais il faudrait qu'ils parlent de la grâce de Dieu. Ils se parlent de la grâce de Dieu à eux-mêmes. C'est drôle comment on est dur envers soi-même, parfois. Vous avez la foi? C'est bien. Est-ce que vous croyez toujours dans la grâce de Dieu? S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, on pourrait dire la foi, ça ne servirait à rien. S'il n'y aurait pas la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on mériterait? Qu'est-ce qu'on mériterait s'il n'y avait pas la grâce de Dieu? Rien. Il n'y aurait pas oui, il y aurait non. Non, tu mérites rien. La grâce ne t'accompagnera pas parce que tu es un pécheur. La grâce ne t'accompagnera pas aucun jour de ta vie parce que tu mérites rien, parce que tu n'as fait aucun progrès. Tu as vu les 6 derniers mois, tu n'as fait aucun progrès, tu ne mérites pas la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, il y aurait écrit non. Mais comme nous avons un Dieu qui fait grâce, on peut dire nous aussi ce matin, oui. Vous pouvez le dire oui? Oui, la grâce m'accompagnera. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. La grâce, c'est un fait. Et je voudrais que vous compreniez que pour être heureux, c'est pour ça que les deux mots sont ensemble, le bonheur et la grâce, m'accompagneront. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes plus heureux, c'est peut-être là qu'il y a une déficience au niveau de cette perception de la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et même si on ne mérite rien, c'est pas grave. Dieu, il est capable de nous faire grâce. La loi, nous l'avons tous en frein. Vous savez que beaucoup de commentateurs mettent en opposition la grâce et la loi. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Mais la loi, elle nous condamne. Tandis que la grâce, elle nous sauve, elle nous délivre. Sur la croix, Jésus a payé pour nous faire grâce, pour que nos péchés soient pardonnés. Est-ce que vous aimez vous approcher du trône de la grâce? Quand vous priez, je vais être un petit peu cavalier, mais quand vous priez quoi? Vous priez le mur, le plafond, ou vous êtes devant le trône de la grâce? Je prie, monsieur Gault, ça ne sert à rien, je ne suis pas en train de me moquer. Je trouve que c'est quelqu'un qui n'est plus conscient de la grâce de Dieu. Je ne le juge pas. Mais quand quelqu'un me dit « Non, ça ne sert à rien de prier », il n'est plus conscient de la grâce de Dieu. Alors merci Seigneur pour la foi. Mais la foi sans la grâce, je vous le répète, ça ne servirait à rien. La grâce, c'est que Dieu va nous bénir. La grâce, c'est que Dieu continue à nous pardonner. La grâce, c'est que Dieu va continuer à nous exaucer. Il va nous secourir. Je le répète, même si on ne mérite rien. David témoigne et exprime le bonheur, comme l'apôtre Paul le récite dans Romains, parce que la grâce de Dieu l'a accompagné. Je le répète, il parle au futur. Vous connaissez la vie de David, si vous lisez la Bible depuis des années. Quel a été son premier exploit? J'en ai parlé tout à l'heure. Quel a été son premier exploit? Un adolescent qui se pointe, comme par hasard, sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il fait? Il tue une vraie machine de guerre. Oui, c'est vrai. Mais comment c'est possible, ça? Si c'est... Alors c'était par la foi ou par la grâce de Dieu? Mais c'est pour comprendre. Les deux? Est-ce que sans la grâce de Dieu, il aurait pu le faire? Moi, je crois que non. Qui lui a donné du courage pour faire... Parce que quand même, ça devait être vraiment méga impressionnant. Vous êtes d'accord avec moi? Qui lui a donné du courage si non la grâce de Dieu? Qui lui a permis de viser juste, au front juste? Son habileté? Moi, je crois qu'il y avait aussi la grâce de Dieu là-dedans. Vous croyez pas? Goliath n'est pas d'accord, peut-être, mais moi, je suis d'accord. Que Dieu, par grâce, a donné à David de viser juste. Pourquoi il est resté humble après cette victoire? Parce que c'est une histoire, on en parle encore aujourd'hui, vous voyez. Dans combien d'églises aujourd'hui, David a été loué. Loué, je dis bien. La Bible dit que notre te loue et non ta bouche. Il a été exalté. Il est resté humble. Qui sait qui lui a donné la force de rester humble si ce n'est pas la grâce de Dieu? Vous êtes d'accord avec moi? La grâce l'a accompagné sur son parcours, parce que bon, là je résume sa vie, mais sa vie c'est quand même particulier. Qui a mis sur sa vie, sur son chemin, des hommes qui l'ont aidé tout le long de sa vie? La grâce de Dieu. Mais Dieu, au fait, à vous, mes frères et sœurs, vous n'avez peut-être pas tué des Goliaths, mais sérieusement, est-ce que Dieu, par sa grâce, n'a pas mis sur votre chemin des hommes et des femmes en qui vous avez quand même vu la grâce de Dieu? Oui ou non? C'est pas vrai? Vous pouvez ce matin dire, oh pardon Seigneur, c'est vrai, j'ai pas toujours réalisé, mais tu as souvent mis des gens sur mon chemin, mais c'est quoi? C'est le hasard? Non, c'est ta grâce. La grâce m'accompagnera tous les jours. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Le bonheur, il ne dépend pas que de la foi. Des fois, on presse les gens. Il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. Oui, mais je veux dire, si c'est sans la grâce de Dieu, je vous assure, il va y avoir une ambiguïté. Le bonheur est obtenu par la foi et par la grâce de Dieu. Heureux l'homme, hein, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. David n'a pas été qu'un homme parfait. David a fait des choses terribles. Parce que c'est bien de parler des choses formidables que David a fait, mais ça n'a pas été toujours bien, David. Hein? Il a fait des choses qui ne sont pas très bien, très graves. Il a commis l'adultère. Il a fait tuer le mari de cette maîtresse, un de ses officiers, de son conseil secret. Ça, c'est une drôle d'affaire, ça. La Bible parle que lorsqu'on a tué des hommes intègres, ça ne va pas bien se passer au jugement, je vous le dis. Enfin, c'est autre chose. Il a commis des choses graves et sanguinaires. Il méritait la mort. Est-ce que David méritait la lapidation? Selon la loi de Dieu. Est-ce qu'il méritait le jugement de Dieu? Dites-moi. Oui. Pourquoi il n'a pas été jugé? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas été jugé par la loi? Alors que le roi Saül a été jugé. Vous savez pourquoi? Écoutez bien, écoutez bien. Parce que des fois on se dit, mais Seigneur, parle-moi, éclaire-moi. Eh bien, écoutez bien. Pourquoi il n'a pas été jugé? Par la loi divine. Parce qu'au moment où il a été confronté à son péché, il l'a reconnu. Écoutez-moi bien. David, tout roi qu'il était, méritait la lapidation et le jugement de Dieu. Mais il ne l'a pas atteint, le jugement. Bon, sur sa famille, il est tombé, il y a eu des conséquences, d'accord. Mais il n'a pas eu le jugement qu'il aurait dû avoir. Pourquoi? Parce qu'il a été droit devant Dieu. Et quand il a été confronté à son péché, il l'a reconnu, il s'est humilié, il a accepté. D'ailleurs, il a dit, si tu me juges, tu seras juste dans ton jugement. Comme d'ailleurs, c'est dit pour nous, si vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas jugé. C'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Parce qu'il aurait pu trouver des excuses, il aurait pu trouver des circonstances atténuantes. Que c'est facile pour un roi en plus de trouver des circonstances atténuantes. Il aurait pu accuser, est-ce qu'il n'aurait pas pu accuser la femme? Qu'est-ce qu'elle faisait toute nue là-bas en train de se baigner? C'est elle! Vous avez vu dans le jardin d'Éden? C'est pas moi, c'est la femme. La femme, ah c'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas comme ça qu'on obtient la faveur de Dieu. Ah bien, c'est la faute aux autres. Si ça ne va pas, c'est toi, c'est ta faute. C'est ma femme. Oui, on divorce, c'est la faute à ma femme. Vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on obtient la bénédiction de Dieu. Moi, je vous le dis. Il aurait pu trouver des excuses, il aurait pu le faire. Il aurait pu excuser la fatigue. Oh, je suis crevé en ce moment, vous savez. Ouais, j'ai fait ça, mais vous savez, moi, je suis crevé, je suis fatigué. Il aurait pu accuser le diable. C'était un coup du diable, ça. Le diable. Qu'est-ce qu'on entend même parmi nous? Le diable. Ah, le diable. Il a bon dos, le diable. On devrait avoir honte. Ouais, c'est un coup du diable. C'est un coup du diable. C'est pas ma faute, il m'a tenté, etc. Vous voyez, s'il avait entrepris un comportement comme ça, il n'aurait pas eu la grâce de Dieu. Et bien souvent, on n'a pas la grâce de Dieu, je vous le dis, mes frères et sœurs, avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de solennité. Parce que quand on se confronte aux situations, on n'est pas vrai. Il faut savoir dire, j'ai péché. Pardon, c'est ma faute. Combien ça fait du bien plus de le reconnaître. Et quand Nathan, alors que lui risquait sa tête ce jour-là, un roi, il fait un claquement de doigts et le gars, il est exécuté. Si vous voulez des exemples à ce moment, je peux vous inciter. Et il a dit, j'ai péché, je suis un pécheur. Et Dieu l'a restauré. Il a connu la grâce de Dieu. Quand on a des excuses, on n'a pas besoin de pardon. Ouais, c'est évident. Le pardon, c'est pour des coupables. Je reconnais. Je ne suis pas le meilleur mari. Je ne suis pas le meilleur père. Je ne suis pas le meilleur frère. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce. David a connu la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il a été heureux. La grâce l'a accompagné. Voulez-vous être heureux? Voulez-vous jusqu'à votre dernier souffle pouvoir dire, mais oui, la grâce m'accompagnera tous les jours. Parce que l'Éternel sera mon berger. Le salut, c'est par grâce. Mais là, les chrétiens, souvent, ils se contentent que de ça. Le salut, c'est par grâce. Alléluia, je suis sauvé par grâce. On chante des cantiques sur le salut par grâce. Mais il n'y a pas que le salut qui est par grâce. Toute la vie doit dépendre de la grâce de Dieu chaque jour. Vous me suivez, mes frères et sœurs? Le bonheur par la foi, le bonheur par la grâce. Troisième élément du bonheur, psaume 25, verset 12. Alors c'est certainement, là maintenant, alors tout ce qu'on vient de voir est extrêmement important, mais celui-ci est très négligé. Ce qu'on vient de partager, vous le savez. Ce qu'on va lire maintenant, vous ne l'avez peut-être pas suffisamment développé. Mais croyez-moi, beaucoup de chrétiens sont malheureux à cause de ce troisième point qu'ils ne développent pas. Et je n'aurai pas le temps, bien sûr, de tout expliquer. Psaume 25, verset 12. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Je m'adresse à ceux qui veulent être vraiment heureux. Lisez ce verset avec sérieux. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme, c'est une question encore, qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et le verset 13 dit, son âme reposera dans le bonheur. Donc, il y a une âme, une certaine catégorie d'âmes, au pluriel, qui connaîtra le bonheur. Ce sont ceux qui craignent l'Éternel. Alors la crainte de Dieu, on en a parlé hier soir avec les jeunes, mais qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Alors je n'ai pas le temps, j'en parlerai normalement mardi soir, parce que c'est un sujet qui nécessiterait qu'on fasse plusieurs réunions dessus. Mais qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Est-ce que c'est avoir peur de Dieu? Non, c'est le respect des choses de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il honore Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est important. La haine de Dieu, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est écrit plusieurs fois dans les psaumes. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Nous, les croyants, les églises, nous avons tellement développé l'amour de Dieu que nous avons oublié d'enseigner la crainte de Dieu. Et cet amour sans la crainte est un amour mou de toute façon, qui n'est pas le véritable amour qu'on devrait enseigner. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Je déteste ce que Dieu déteste. J'aime ce que Dieu aime. La crainte de Dieu, c'est la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'en ont rien à faire. Ils regardent des saletés à la télévision, ils disent, mais je fais ce que je veux, je suis libre. C'est tout ça, sauf la crainte de Dieu. Ils regardent des films de violence, des saletés, ils ont un vocabulaire de charretier, mais c'est pas grave, oh, c'est pas grave, il y en a d'autres qui font pareil. Voilà, je pourrais donner des dizaines d'exemples. Voilà un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. L'homme qui craint l'Éternel, il est heureux. C'est comme ça. Ou alors Dieu est un menteur. Mais moi je vous dis qu'un homme qui craint l'Éternel, qui vit par la foi et qui vit par la grâce, découvre le véritable bonheur. Alors je vous assure, je vois que l'heure tourne et je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais priez pour mardi, pour qu'on développe l'enseignement sur la crainte de Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Quelqu'un qui craint Dieu, il a le respect des choses de Dieu. J'ai parlé en introduisant le culte du chewing-gum. Est-ce qu'il faut parler de la ponctualité? On pourrait. C'est presque pénible de revenir sur des choses pareilles. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il a le respect, il a une vraie piété. Et c'est comme ça, après, que l'Esprit de Dieu confirme sa parole. Quand il voit des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais ça c'est votre problème. Arrangez-vous avec Dieu, ne venez même pas vous arranger avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas à justifier la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, c'est votre affaire. Mais moi je vous dis qu'un homme qui craint l'Éternel a un appui ferme et que son âme repose dans le bonheur. Je termine avec le quatrième point, on y reviendra mardi, parce que je crois que c'est très important. Dans le psaume 65, David développe le quatrième aspect du bonheur. Et je vous assure, celui-là aussi, il n'est pas des moindres, c'est comme les quatre pieds d'un tabouret, si vous voulez, il faut qu'ils y soient, tous les quatre. Psaume 65, David, vous voyez ces quatre éléments qui ont été présentés par le roi David. Alors qu'est-ce qui est écrit? Voilà, parce que la crainte, c'est quelque chose d'intérieur, parce qu'on peut faire semblant d'avoir la crainte de Dieu quand on est à l'église, voilà. Mais il y a une activité qui procure du bonheur. Tout ça, c'est équilibré, bien sûr. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Ce matin, quand je venais au culte, je pensais à ce verset. Et vraiment, c'était ce que je vivais. J'étais en train de le vivre. Je dis, Seigneur, je suis déjà rassasié d'aller dans ta maison. C'est vrai que je suis là en tant que pasteur, je viens, entre guillemets, exercer mon ministère. C'est une journée de travail pour moi, que vous le vouliez ou non, que personne ne soit choqué. Mais quand même, c'est quand même une journée de travail. Mais je me dis, non, au-delà de ma responsabilité, il y a le fait que je suis rassasié de me retrouver avec des frères, avec des sœurs, et de partager le bonheur d'être conduit par Dieu dans sa maison. Quand on voit les chrétiens qui viennent à l'église, comme quand on va chez le dentiste. Je ne sais pas vous comment vous faites quand vous allez chez le dentiste, mais moi ce n'est pas le meilleur rendez-vous que j'ai. Mais les chrétiens, ils viennent au culte comme ça. On devrait être heureux. Heureux d'aller dans la maison du Seigneur, heureux de trouver sa place. Hier soir, je discutais avec une jeune fille qui me dit, mais moi, monsieur Gros, je veux trouver ma place. Je fais 3 ans d'études à Toulouse. Je veux trouver ma place dans la maison du Seigneur. Je veux servir Dieu. Elle ne sait pas combien elle a réjoui mon corps, cette jeune fille. Le bonheur de servir Dieu, la fidélité envers la maison du Seigneur. David a goûté au bonheur de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes là dans le temple du Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur ? Répondez-vous vraiment. Est-ce que vous dites, voilà, c'est bien, ou alors ça va finir dans 4 minutes. Je dois être un bon chrétien. Je vais à l'église tous les dimanches. Je prends le pain et le vin. Donc, je prends le pain et le vin. Je suis en communion avec Dieu. J'espère que vous n'en êtes pas là. Le bonheur, c'est pas parce qu'on prend le pain et le vin qu'on est heureux. Écoutez, moi je suis désolé, je vois beaucoup de chrétiens qui ne sont plus heureux. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette exhortation, pour que tous les croyants qui écouteront cette prédication, et vous tous ici présents, qui aimez Dieu, qui êtes baptisés, qui avez un jour décidé d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, mais c'est vrai, je suis pas heureux. Il faut que je sois honnête. Je sais, je suis pas un hypocrite quand je chante certains chrétiens sur le bonheur, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Eh bien parce que ces quatre vertus que l'on vient de partager ne sont pas développées. La foi n'est pas développée, la grâce c'est que pour les perdus, qui découvrent Jésus, la crainte, bon, la crainte c'est pas grave dans le monde où on est. Oui, on peut dans le monde qu'on est avoir la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour que nos yeux s'ouvrent. Nous devons demander au Seigneur, mais Seigneur ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Je veux connaître le bonheur. David n'a pas été heureux parce qu'il a été roi. David n'a pas été heureux parce qu'il était riche. David n'a pas été heureux parce qu'il avait de l'argent en quantité, des serviteurs et des servantes, parce qu'il avait remporté des batailles. Et que de batailles David a remporté. David a été heureux parce qu'il a eu une véritable foi en Dieu. David a été heureux parce qu'il a goûté à la grâce. Chaque fois qu'il y avait un problème, il goûtait la grâce de Dieu. Chaque fois qu'il pleurait, il a pleuré souvent, chaque fois qu'il faisait une erreur, un péché, il se jetait aux pieds du Seigneur, « Mon âme a soif de toi !» Et jusqu'à ce qu'il obtienne la faveur de Dieu. Et c'est clair qu'il pouvait dire « Oui, oui, à force, j'ai quand même compris, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Parce que chaque fois, il est fidèle envers moi. Il a goûté à la crainte, il s'est laissé guider. Est-ce que nous nous laissons guider? Est-ce que nous savons attendre jusqu'à ce que Dieu nous guide? Est-ce que nous savons écouter le conseil des pasteurs, des anciens, des frères, des diaconesses, des hommes, des femmes qui sont capables de dire, attends en silence. Ne te précipite pas, nous, il faut qu'on court. On est dans une société de malades. On ne fait que courir. Et on s'identifie au monde alors qu'on devrait s'identifier à Marie qui savait s'asseoir au pied du Seigneur. Et il a été heureux parce qu'il a goûté à la présence de Dieu. Et je m'adresse à ceux qui ne font rien pour Dieu. Demandez au Seigneur, Seigneur, comment je peux vivre ce verset 5 du psaume 65 ? Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Est-ce que je viens comme un auditeur, un observateur, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui observe, qui analyse la prédication, comme souvent les gens me disent, vous avez de belles prédications, aujourd'hui c'était bien, des fois c'est mieux. Et ne me le dites pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que dans ta maison, Seigneur, ma foi s'exprime? Je me suis réjoui mardi soir de voir plusieurs personnes qui n'avaient jamais entendu prier et qui ont prié suite à ce que j'avais dit dimanche dernier. Ça m'a vraiment encouragé. Je ne voulais pas montrer, mais c'était dedans. Mes frères, mes sœurs, il y a du bonheur avec Dieu. Plus que d'avoir des comptes en banque bien remplis. Si vous avez un peu d'argent sur le compte, bénissez le Seigneur. Mais la Bible dit que le riche, il ne jouit pas de sa richesse. Et heureusement, parce que Dieu serait injuste. Si c'était les riches qui étaient heureux, je peux vous dire, alors là, que Dieu serait injuste. Les riches peuvent être heureux, les pauvres peuvent être heureux. Ça dépend de ces quatre vertus. Alors on ferme les yeux et on prie vraiment. On dit au Seigneur, mais méditez ces choses. J'espère que vous avez pris les notes de ces versets. Et toute la semaine, mais faites cette expérience de méditer tous ces versets. Ils sont incomplets, c'est clair. Ils sont incomplets. Mais les quelques versets que nous avons partagés, si pendant des semaines, vous les méditez, je vous assure, si vous dites, Seigneur, donne-moi un cœur qui te craigne, donne-moi un cœur qui te respecte, vous aurez le bonheur. Et vous le témoignerez autour de vous. Prions quelques instants. On va demander au Seigneur sa faveur. On termine ce culte en réclamant la bénédiction de Dieu. Je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, qui n'êtes pas heureux, qui êtes tristes. Jésus l'avait dit, vous êtes heureux. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Bien sûr, c'était pour le jour où il a lavé les pieds, mais c'est valable pour tout le reste. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu. Que vous les patriquiez. Ces quatre choses, moi je peux le faire consciencieusement, je peux, entre guillemets, c'est une façon de parler, vous mettre au défi. Et si nous nous appliquions à dire, mais c'est vrai, je vais réviser ma foi, où j'en suis de ma foi, où j'en suis de cette perception de la grâce de Dieu, vous y avez droit. Où j'en suis de la crainte, où j'en suis du plaisir et des délices d'aller dans ta maison, de te servir, de visiter les veuves, les orphelins, de faire ce à quoi tu m'appelles. Vous verrez, vous exprimerez vous aussi le bonheur. Oui, à cause de son amour, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Je vais demander à M. Bordeneuve de venir à ma place, s'il vous plaît, terminer en priant pour nous tous. Que véritablement, nous soyons sérieux. Si vous êtes d'accord avec sa prière, dites Amen. Si vous voulez rester tout à l'heure pour le jeûne et prière, pour faire une expérience avec Dieu, peut-être au niveau de ces quatre piliers que nous venons de partager, restez, même si c'est qu'un quart d'heure. Peut-être vous ne prierez pas pour les Égyptiens, mais peut-être pour vous. Peut-être vous demanderez qu'on prie pour vous, parce que vous avez droit à ce qu'on prie pour vous aussi. Oui, je vais rester à ce moment de prière. Et je vais demander qu'on me soutienne. J'en ai marre d'être malheureux alors que je t'aime, Seigneur. Et je veux redécouvrir ces vertus. Faites-le cette semaine. Ce soir, en vous endormant, relisez ces textes. Demain matin, commencez la journée avec ces textes. Vous verrez. Que le nom du Seigneur soit béni. Monsieur Bordeneuve, s'il vous plaît.
Alléluia. Seigneur, tu nous parles, Seigneur, et nous savons que nous t'entendons. Puisque nous avons des oreilles, et jusqu'au fond du cœur, Seigneur, ta parole que tu imprimes par le Saint-Esprit va nous aider, Seigneur, à vivre, à découvrir de plus en plus ce bonheur, ici, maintenant, bien que en espérance, bien que nous verrons ta gloire, et cela pendant l'éternité. Seigneur, ici-bas, tu nous as fait comprendre que nous pouvons vivre ce réel bonheur. Selon ce qui nous a été annoncé. Viens, Seigneur, nous aider. Viens par le Saint-Esprit graver au fond de notre cœur cette vérité que nous puissions la croire et compter sur ta grâce pour la vivre. Bénis nos frères, nos sœurs. Tous nous avions besoin de cette parole et tu nous aides à la vivre, Seigneur. Gloire te soit rendue. parce que, Seigneur, c'est une force d'avoir ta joie en permanence. La joie de l'Éternel est notre force. Et c'est vrai, Seigneur, pour pouvoir publier à tout le monde et, Seigneur, répandre cette bonne odeur de Christ autour de nous, être les véritables ambassadeurs dans ce monde si malheureux. Seigneur, nous avons besoin de vivre ce bonheur, Seigneur. Ce n'est pas un but, mais Seigneur, c'est une marche constante et nous voulons te rendre gloire parce que tu nous as bénis, tu nous as visités et nous voulons marcher dans la foi de la parole que nous avons entendue. Merci Seigneur, renouvelle ton serviteur, remplis-le encore plus du Saint-Esprit parce que Seigneur, tu l'inspires et tu vas l'aider encore Seigneur dans son ministère. Merci Seigneur, bénis tous tes serviteurs qui sont ici, bénis Seigneur tous les enfants de Dieu qui sont là, Seigneur. Nous sommes tous aussi dans ce service, Seigneur, et nous te rendons gloire de nous avoir entendus. Amen.